Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8, en compagnie de Marie-Noëlle Anderson pour évoquer les femmes en Afrique du Sud. Marie-Noëlle, nous venons d'entendre une chanteuse, je crois, un peu plus connue, qui s'appelle Leta Mbulu. Elle chante une chanson qui a pour titre Bouza. Qu'est-ce que ça veut dire, Bouza ?
Posez une question.
Voilà.
Alors à vous.
À moi de poser la question, alors. Mais en l'occurrence, quand elle dit ça, elle pense à quoi, elle, vous savez ?
Écoutez, je pourrais peut-être imaginer qu'elle pose une question à son mari, puisqu'elle chante avec elle. C'est Kaifi Semenya, qui est un grand musicien sud-africain. Et on entre peut-être là dans un discours homme-femme, bien adéquat, bien à propos aujourd'hui.
Alors moi, la question suivante que j'ai envie de vous poser, vous avez évoqué tout à l'heure la violence en disant peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté à ce chapitre-là. On sait hélas qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers noirs en particulier, il y a une violence incroyable. Violence pas seulement noir-blanc, aussi entre noirs, et que les femmes sont particulièrement confrontées à cela, parce que en quelque sorte elles sont victimes, comme tout le monde, des actes de violence, de la répression, mais elles sont aussi les boucs émissaires de la violence que subissent les hommes, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc on a constaté que les femmes qu'on voit, enfin qui sont dans les hôpitaux ou dans les cliniques ou ambulatoires, etc., blessées, qui ont subi des violences, sont dans la grande majorité des violences hommes-femmes. Hein. Et il faut bien voir que l'homme noir, depuis 2300 ans, a subi cette oppression, ce mépris du gouvernement, du régime, du système apartheid. Qu'est-ce qu'il a en dessous de lui ? C'est la femme, forcément. Donc, toute cette espèce de trop-plein, de frustration, de mal-être, il va se défouler sur la femme noire. Donc, c'est elle qui subit le plus à plusieurs niveaux, en tant que femme d'abord et en tant que noire en plus. Ça va très loin parce que il y a toute une espèce de rééducation à faire aussi, étant donné que les femmes se font violer, par exemple, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, si bien que ça devient une partie de leur vie. Elles ont à réapprendre aussi qu'en fait, ce n'est pas normal, ce n'est pas une obligation de subir le viol. Et on a eu des ateliers, même dans des milieux comme l'université de Cape Town, où là aussi les hommes disaient, mais en fait, une femme, elle sert à ça, c'est normal. Donc on voit que c'est pas même un problème lié à la pauvreté. Je veux dire, aussi,
oui,
bien entendu.
C'est un discours entendu dans une université, c'est invraisemblable.
C'est ça qui est fou. Il y a eu vraiment des campagnes d'éducation à ce niveau-là dans les universités, en tout cas du Cap, pour dire aux jeunes maintenant, basta, vous allez apprendre à avoir du respect pour ces femmes qui sont là et qui maintiennent le pays, qui sont importantes, qui sont les mères de vos enfants, etc. Donc tout le problème de la violence est vraiment très, très, très important. Il y a toute cette rééducation à faire des deux côtés.
Et vous me disiez tout à l'heure, alors que nous préparions cette émission, qu'il y a quelque chose de très surprenant, c'est qu'on a aussi constaté une recrudescence de la violence dans les milieux blancs et pas seulement chez les Noirs. Et que visiblement, ça, c'est lié.
Oui,
pourtant.
C'est un phénomène que je trouve intéressant à observer. Si on veut, la majeure partie des blancs, bébés, ont été choyés par des nounous noirs. Donc tout ce qui est chaleur, nourriture, le bain, l'affection, etc., ils l'ont reçu de ces nounous noirs pendant que leur mère allait faire des bridges ou des parties de tennis ou je ne sais quoi. Et bon, ces blancs, tout d'un coup, arrivent l'âge de l'école, ils passent le seuil de l'école et ils apprennent que tout ce qui est noir est méprisable, est mauvais, est négatif, etc. Donc déjà là, il y a une première vacillation, ils ne doivent vraiment plus très bien savoir à quoi ils en sont. Et pour les garçons, en plus, après, il y a le service militaire. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés dans les townships quand il y avait toutes ces rafles, enfin, où ils allaient tuer les gens, où ils allaient les réveiller au milieu de la nuit. Enfin, bon, on connaît, on sait tout ce que ça a été, ces épisodes de violence. Donc, ces blancs ont tout ce bagage. Alors, on se retrouve tout d'un coup à un moment où ils doivent avoir une certaine schizophrénie latente, où cette violence se retourne au fond contre leur propre femme, comme une espèce de transfert, si on veut dire, étant donné que ce sont elles qui, au départ, ont délégué leur rôle de mère. Et je pense que pour des psychologues, il y aura une étude assez intéressante à faire à ce niveau-là, en regardant maintenant qu'est-ce qui va se passer avec le changement dans cette société. Parce que ça leur fait, encore une fois, ils ne savent plus à quoi ils en sont.
On ne va pas trop les plaindre, mais espérons effectivement.
Non, vraiment pas.
Mais bon, il y a quand même un espoir dans ce constat, c'est que les femmes se réunissent, elles se regroupent. Vous parliez de groupes de santé des femmes et elles découvrent entre autres qu'elles ont effectivement un certain nombre de droits, entre autres celui d'être respectées en tant que femme et de ne pas être victime de violences, mais aussi qu'elles peuvent choisir le nombre d'enfants qu'elles veulent, etc. Et ça, vous avez rencontré des femmes qui travaillent avec les femmes
enceintes. Tout à fait. Elles font un travail extraordinaire. Je veux dire, c'est un niveau très simple où les femmes vont dans les townships, dans les zones rurales, avec des planches anatomiques en leur disant, voilà, votre corps, il est comme ça et ça fonctionne comme ça. En leur expliquant vraiment le béaba, en leur disant, bon, vous avez le droit d'avoir des enfants ou pas, en les conscientisant petit à petit à avoir une autre approche aussi de respect déjà pour elles-mêmes, parce que c'est ça qui est très important aussi, c'est que autant les hommes que les femmes, ça il faut bien le dire, noirs, ont à travers toutes ces centaines d'années d'oppression perdu leur dignité, leur respect pour eux-mêmes. C'était tout le mouvement de Steve Biko, Black Consciousness Movement, qui visait justement à raviver cette dignité-là. Et bon, pour les femmes, c'est très important. Et il y a beaucoup de groupes de femmes qui œuvrent dans ce sens-là, soit dans le domaine de la santé, soit simplement en faisant des ateliers dans des zones même tout à fait perdues. Il se passe énormément de choses.
Alors, c'est ça que nous allons aborder parce que, évidemment, il est bien de savoir d'où partent les femmes qui aujourd'hui sont là à l'aube de la reconstruction de leur pays et qu'est-ce qu'elles ont sur leurs épaules et qu'est-ce qu'elles vont devoir en faire et qu'est-ce qu'elles vont devoir surmonter. Mais de tout temps, les femmes ont bougé parce qu'elles ont vécu une situation difficile, mais elles ont de tout temps bougé aussi et elles n'ont pas attendu... Par exemple, l'événement de la libération de Nelson Mandela pour se mettre à bouger.
Ah
ça
non.
Se passait depuis fort longtemps avant.
Ça, c'est sûr. Donc, ça se passait aussi à différents niveaux. Disons, on peut constater une chose intéressante, c'est que par rapport à la déstructuration des traditions et de la famille dont on parlait avant, il y a eu comme une espèce d'amnésie partielle, je dis bien, heureusement pas totale, quant aux traditions, aux valeurs traditionnelles, à la culture, etc. Mais qui a été remplacée par une espèce d'engagement, de force dans la lutte. Et ces femmes ont de tout temps été très importantes parce qu'elles ont retransmis à leurs enfants déjà, hein, au niveau de cette tradition de lutte, de dignité d'elles-mêmes envers et contre tout. Comme elles étaient les plus opprimées, elles n'avaient rien à perdre. Donc elles ne pouvaient que leur transmettre avec un maximum d'énergie, de cette force africaine qui vient de la terre, cette obligation, je dirais, de vraiment lutter pour exister en tant qu'être humain, envers et contre tout.
Juste une toute petite parenthèse, parce que avant que nous continuions, mais je crois que ça a à voir tout à fait, j'étais frappée de voir que ces derniers temps, il y a eu une série d'articles dans la presse genevoise, mais en particulier dans un journal qui se préoccupe de donner peut-être la parole de temps en temps à d'autres gens aussi, qui est le journal Le Courrier. Eh bien, il y a eu plein d'articles sur les femmes en disant les Noirs comptent sur leurs femmes, le fol espoir de changement passe par les femmes, l'avenir de l'Afrique du Sud passera par les femmes, enfin bref. Est-ce que, et tout le monde disant, il y a des femmes extraordinaires dans cette Afrique du Sud, est-ce que c'est une mode, un prétexte, ou est-ce que une chose qui est très particulière à l'Afrique du Sud?
Je crois que c'est une chose très profondément africaine, déjà pour commencer. Je veux dire, le continent africain, on l'appelle quand même Mama Africa, c'est pas par hasard. Et je crois que c'est aussi peut-être aujourd'hui lié, ou en tout cas très vrai pour les femmes sud-africaines, parce qu'elles ont cette longue tradition de résistance, puisque tout se reposait justement sur leurs épaules. Et elles ont cette force absolument incroyable qu'elles puisent dans leur terre, dans leur relation avec les ancêtres, dans leur tradition, leurs coutumes, dont elles sont les gardiennes. Et c'est vraiment un espèce de capital gigantesque pour cette reconstruction de l'Afrique du Sud de demain, d'aujourd'hui.
Et d'hier.
Absolument. Et ces femmes ont toujours été là. Elles se sont manifestées. Il y a eu deux grands événements, on pourrait peut-être dire, dans l'histoire des femmes sud-africaines. D'une part, il y a eu dans les années 50-56, sauf erreur, cette marche sur Pretoria où 20 000 femmes sud-africaines noires ont été manifestées contre ce port obligatoire de ces passeports internes.
Donc ça, c'était au tout début des vraiment lois strictes d'apartheid.
Voilà. Oui. Elles ont été extrêmement puissantes. Donc elles ont de tout temps montré qu'elles pouvaient se réunir, qu'elles n'avaient pas besoin d'une appartenance à un parti politique, par exemple, mais que par leur force de femme, leur solidarité entre femmes, elles pouvaient se réunir et vraiment se mettre à bouger les montagnes. Et la deuxième fois, c'était surtout dans le contexte de ce qu'on appelait les fameux beer halls, donc ces halls, ces halles où les gens devaient, entre guillemets, aller boire de la bière, parce que le gouvernement avait interdit la fabrication, la production de bière dans les maisons. Et ça, dans la tradition africaine, c'est quelque chose d'extrêmement grave, étant donné que ça fait partie de toute cette tradition d'hospitalité. Et bon, à part ça, c'était aussi extrêmement économique, parce que forcément, quand on allait boire la bière au bistrot dans une de ces halles, ça coûtait beaucoup plus cher. Mais forcément, ça permettait au gouvernement de tout bien contrôler. Donc là aussi, les femmes ont protesté. Bon, il faut dire que ça a été très dur, parce qu'elles n'ont pas été entendues facilement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que toutes ces protestations, c'est aussi fait tache d'huile. Disons, ça a commencé dans les townships, ça a commencé à Pretoria, mais ça s'est beaucoup étendu dans les zones rurales. Et on a pu observer de tout temps cette solidarité entre les femmes et ces réseaux qui se formaient, qui étaient extrêmement présents, étaient extrêmement actifs aussi.
Il y a beaucoup de femmes qui ont dû lutter depuis l'extérieur de l'Afrique du Sud pendant de nombreuses années.
Ben oui, les exilées notamment. Et là aussi, on voit que souvent, elles ont, parce qu'elles pouvaient faire peut-être des jobs, des travaux plus simples, c'est elles qui travaillaient pendant que les maris ne trouvaient pas d'emploi, etc. Donc elles ont été très importantes aussi en tant qu'exilées. Elles ont donc un niveau personnel simplement déjà, et aussi pour garder cette cohésion, pour organiser des rencontres, etc., les femmes étaient toujours très présentes pour que les exilés gardent cette solidarité entre eux et continuent la lutte depuis l'extérieur.
Au niveau de la vie quotidienne, Marie-Noël, les femmes arrivaient à s'engager justement à la fois dans essayer de résister dans ce qui est leur tradition, leur force par rapport à leur famille, puis en même temps prendre un engagement plus politique.
Oui, on a eu des grandes figures de femmes engagées dans la politique. Il y a eu un nombre énorme de femmes qui ont été bannies aussi. Il y a énormément de femmes qui sont exilées évidemment aussi. Il y a eu des femmes très actives dans les syndicats. On peut pas toutes les énumérer là. Il y a vraiment des figures de proue dans l'histoire des femmes en Afrique du Sud. Je veux dire que ce soit Emma Machinini chez les syndicalistes, que ce soit au niveau des artistes Bamiria Makeba ou bien l'écrivaine Bessie Head. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qu'on pourrait citer. Aussi des blanches d'ailleurs. Par exemple, Helen Joseph qui est morte il y a un an environ, c'était une des toutes premières à se lancer, à créer des mouvements, des organisations, des associations féminines. Mais je crois qu'il ne faudra jamais, jamais, jamais oublier ou sous-estimer ces masses de femmes noires anonymes qui vraiment ont fait que l'Afrique du Sud en est là aujourd'hui.
Sia lima, 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 sia
C'est Nelsi Sedibé qui chantait cette belle chanson Siwalema, une autre chanteuse sud-africaine que vous découvrez grâce à Marie-Noëlle Anderson qui nous a amené toutes ces belles musiques pour cet après-midi. J'avais trouvé, moi bien sûr, Myriam Makeba que vous connaissez. J'ai trouvé peut-être encore une ou l'autre chanteuse comme je les reprends sous mes yeux.
Marotella
parce que
Queen,
les
Marotella
Queen, voilà, que vous entendez chaque semaine dans les informels de Radio Pleine Lune. Mais je n'ai pas trouvé d'autres chanteuses sud-africaines. Alors merci Marie-Noëlle de nous avoir fait découvrir toutes ces magnifiques chanteuses-là que nous découvrons avec vous. Alors, bien sûr, maintenant, on veut en arriver à ce moment de changement, cette perspective incroyable de changement, parce qu'il faut bien, de temps en temps, choisir des moments symboliques, qu'étaient les premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Bien sûr que le changement avait déjà commencé bien avant. On ne peut pas fixer une date, dire c'est à partir de ce jour-là que tout a commencé. Mais l'idée qu'il y allait avoir pour la première fois un moment où la population allait pouvoir décider quelque chose qui concernait son pays pour eux-mêmes, a visiblement été quand même un moment très, très symbolique, très important.
Ah, c'est un moment d'une puissance absolument énorme. L'impact, l'onde de choc vient de partir et je pense qu'elle va encore voyager longtemps.
Et ça, je trouve que pour nous autres qui allons voter avec difficulté, qui nous traînons à 3 sur 10 à aller élire nos gouvernements, eh bien, ça pourrait peut-être quand même nous piquer un petit peu pour nous dire mais comment nous utilisons nos droits aujourd'hui alors que ceux qui tout à coup les découvrent pour la première fois, mon Dieu, qu'est-ce que ça représente comme chose importante.
Oui, mais je crois que c'est intéressant effectivement parce que forcément après toute cette oppression où on n'a pas pu s'exprimer, le jour où on peut s'exprimer, ça vaut de l'or, je veux dire, ça vaut plus que de l'or, il n'y a pas de...
on ne va pas commencer à dire, il faut avoir été opprimé pendant 400 ans pour se sentir motivé, pour aller choisir son gouvernement ou élire un président.
C'est triste si on en arrive là, ouais. Mais par rapport à l'Afrique, ce qu'il y a peut-être d'intéressant à remarquer, c'est qu'il y a, avant qu'il y ait les colons, les missionnaires, etc., il y avait quand même une tradition d'expression très importante. Enfin, dans les conseils tribaux, je veux dire, on demandait l'avis aux gens. Il y avait ces réunions, les palabres, on peut les appeler dans certains pays, les ndaba, etc., dans l'Afrique australe, où on pratiquait une démocratie plus de consensus. Et ce que je trouve très intéressant, c'est peut-être une petite parenthèse, parce que ça ne touche pas que les femmes, ça touche tout le monde.
Les droits politiques, heureusement que ça ne touche pas que les
Absolument.
Femmes et tout le monde.
Disons que la démarche de Nelson Mandela était, l'automne passé, d'organiser ces forums nationaux. Et dans ces forums nationaux, il est allé dans les plus grandes villes, dans les grands centres. C'était d'ailleurs annoncé dans les journaux. Il y avait des pleines pages où on disait aux gens, venez au forum national de tel et tel endroit, à tel moment, tel jour, etc. Parce que nous voulons entendre vos souhaits, vos critiques, vos désirs, vos espoirs, etc. Donc c'est une espèce de démocratie consensus qui s'éloigne de la démocratie dictature de la majorité sur la minorité qu'on pratique chez nous. Et je trouve ça très intéressant puisque c'est l'Afrique du Sud d'aujourd'hui dans le contexte de notre planète d'aujourd'hui, mais en retrouvant certaines racines africaines et certaines valeurs africaines absolument primordiales. Donc c'est une conjugaison de ce qui vient de l'ancien et le moderne.
L'arbre à balabre et le bulletin de vote, quoi.
Voilà, exactement. C'est une jolie image.
Alors, les femmes ont, bien sûr, semble-t-il, joué un rôle important dans la préparation de ces élections. De nouveau, elles ne sont pas les seules, bien sûr, à avoir préparé ce moment. Mais malgré tout, il semblerait qu'elles ont joué un rôle important. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, on titrait dans un des journaux qui est paru chez nous, les hommes comptent sur leurs femmes. Les Noirs comptent sur les femmes pour amener leurs hommes au bureau d'élection.
Tout à fait. Bon, à deux niveaux. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'organisations de femmes, de groupements de femmes qui sont allées dans les townships, que ce soit dans les quartiers, au niveau des quartiers, ou que ce soit parcourir beaucoup de kilomètres pour aller dans des villages perdus, pour enseigner, expliquer tout le processus. Alors, il y a d'abord une partie, je dirais, très technique. Comment est-ce que ça se passe? À quoi ressemble un bulletin de vote? Qu'est-ce que c'est, toutes ces 19 tranches-là avec des photos de gens qu'on n'a jamais vus avant?
Oui, donc parce qu'il faut dire que quand même, pour la première fois qu'ils votaient, ils ont dû choisir 19 parties différentes.
Exactement, oui. Donc, c'était pas évident.
Pas facilité la tâche tout de suite.
Non. Mais bon, enfin, en leur expliquant comment ça se passait, qu'on votait dans le secret, qu'il fallait mettre son bulletin de vote dans l'urne, etc. Donc, il y avait tout ce côté très technique. Et il y avait aussi un côté vraiment d'éducation à la démocratie qui impliquait justement de comprendre et d'accepter, et d'être fier et heureux, etc., de pouvoir de nouveau s'exprimer. Parce qu'il faut imaginer que quand vous êtes dans une zone perdue quelque part et que depuis 300 ans, c'est-à-dire toute votre vie, puis tous les ancêtres avant vous, on vous a toujours dit « tais-toi », et que tout d'un coup, on vous dit « maintenant, on te demande ce que tu veux », etc., on n'a pas beaucoup confiance. Je veux dire, la première réaction, c'est « oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? J'ai meilleur temps d'attendre et de voir ». Donc, il y a eu toute une éducation à ce niveau-là. Ce serait plutôt une rééducation, en fait, pour dire aux gens « mais souvenez-vous, dans le temps, vous aviez le droit. Donc maintenant, ces temps-là reviennent. On en est de nouveau à quelque chose de vrai, d'authentique, de beau, où vous existez, où on veut savoir ce que vous pensez, ce que vous voulez. » Et les femmes ont été... là aussi, de nouveau, pendant que les maris travaillaient, il y avait une grande quantité de femmes qui ont été faire ce travail d'explication, de sensibilisation, de rééducation partout dans le pays. Il existait déjà des structures, des ONG, il y en a 54 000, entre parenthèses, en Afrique du Sud.
Donc, organisations non gouvernementales.
Voilà, c'est ça. Et des organisations aussi tout à fait informelles, de quartier, ou notamment, par exemple, à Crossroads, les femmes ont toujours été très, très importantes, puisqu'elles ont organisé ces, ce qu'on appelait ces squatter camps, donc ces bidonvilles.
C'est dans quelle ville, ça?
C'est près du Cap, où elles ont elles-mêmes créé des écoles, des centres communautaires et tout, parce que le gouvernement, forcément, ne fournissait rien. Donc, elles ont aussi continué dans toute cette, cette structure informelle qui existait déjà, dans d'autres townships aussi, à expliquer qu'est-ce que c'était maintenant, ce changement, ce, ce, cette nouvelle Afrique du Sud, et ce que ça impliquait aussi comme responsabilité au niveau de la participation démocratique, justement.
Et puis, quand vous disiez tout à l'heure, le vote s'est inscrit. Effectivement, on leur avait aussi souvent dit, inscris-toi dans tel parti. Par exemple, les patrons blancs n'hésitaient pas à dire, mets-toi là, et ils avaient l'obligation de le faire. Là, tout à coup, on leur a assuré que ce qu'ils allaient voter, personne ne le saurait. C'est, voilà. Ça, c'est aussi une chose importante à découvrir.
C'est une chose très importante. Et les gens qui ont suivi, peut-être ces derniers jours, tout ce qu'on a vu à la télévision avant les élections, auront pu voir qu'on interviewait des gens, on leur disait, alors vous, qu'est-ce que vous allez voter ? Et très peu disaient ce qu'ils allaient voter. Et quand j'étais en Afrique du Sud en novembre, en parlant avec les gens dans la rue comme ça, il y a quand même un certain nombre de gens qui me disaient « Ah, je ne sais pas encore », alors que c'était évident. Ils savaient très bien ce qu'ils allaient voter. Donc, il fallait d'abord rentrer un petit peu, les mettre en confiance, leur expliquer que, bon, j'étais blanche, je venais d'Europe, mais que, voilà, ma démarche, c'était ça et ça et ça. Et quand ils comprenaient qu'au fond, on était tous dans le même bateau et que j'étais une des leurs, bon, là, ça devenait beaucoup plus ouvert.
Leon Potsio, Tika Babu, Wabamu, Jemu, Wapana.